Music Remembrance Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Beat Feulmy, théologien et musicologue rattaché à l'Université protestante de Strasbourg, directeur d'un institut de recherche appelé Les Traces, pour un travail sur l'engagement de l'artiste et plus spécifiquement dans le cadre des rafles de 1943. Beat Feulmy, bonjour.
Bonjour. Face à la période difficile que nous traversons actuellement, marquée par des conflits et des tensions, il convient de rappeler le rôle des artistes qui, par leur engagement, agissent en amont et en aval des événements tragiques pour avertir, prévenir, alerter et dénoncer, mais aussi pour réconcilier, guérir, remémorer et faire le deuil. L'artiste engagé est une figure qui apparaît tardivement dans l'histoire de l'art, de la littérature et de la musique. L'artiste de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Renaissance était plutôt un artisan qui produit au service d'un puissant ou répond à des commandes. Cela ne veut pas dire que l'artiste artisan médiéval et renaissant n'ait jamais dépassé la simple satisfaction de commandes qui lui ont été adressées. Le peintre Matthias Grünewald, par exemple, crée entre 1512 et 1516 les magnifiques panneaux du retable d'Isenheim, conservés aujourd'hui au musée d'Unterlinden de Colmar, en répondant ainsi à une commande de la part de l'ordre des Antonins. Cette représentation de la mort de Jésus sur la croix est une confrontation choquante avec la réalité de la souffrance, une souffrance qui est infligée à un être humain par des humains. Cependant, le peintre n'envisage pas que ses contemporains changent de comportement en contemplant son œuvre. On ne pourrait là donc guère parler d'art engagé, mais plutôt d'art compassionnel. D'autant plus que l'artiste propose un cadre herméneutique qui place la souffrance dans ce système interprétatif, en l'occurrence la religion chrétienne. C'est tout différent pour le cycle d'estampes que, 3 siècles plus tard, a réalisé le peintre espagnol Francisco de Goya entre 1510 et 1515, les désastres de la guerre. Les 82 gravures représentent les horreurs de l'invasion des troupes napoléoniennes en Espagne. L'artiste Goya se trouve pris en piège. Lui, qui a initialement acclamé l'arrivée des Français, constate désormais la brutalité, voire la bestialité de l'envahisseur. L'œuvre, qui ne sera imprimée que 50 ans plus tard, bien après la mort de l'artiste, n'est pas une commande, elle n'offre aucune explication conventionnelle de la souffrance et de l'injustice, ni elle donne quelconque espérance. L'artiste engagé est une figure de la modernité, le type de l'artiste autonome qui crée en son propre nom. Le terme « s'engager » prend sa racine dans le gage, un dépôt ou une garantie qu'on laisse pour une dette ou un service à rendre. Le mot francique « wadi » a donné « wette » en allemand, le pari. L'artiste qui s'engage ne se met pas simplement au service d'une cause qu'il défend. Il met un gage, il fait un pari, il court un risque. Un art engagé se heurte à plusieurs difficultés inhérentes à l'acte artistique. La première concerne la représentabilité de l'horreur. Comment représenter par un poème, une musique, un tableau, les abîmes les plus profonds de la barbarie humaine? Qu'est-ce qu'ont fait, par exemple, les compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle pour représenter le largage de la bombe atomique sur la ville japonaise? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer des démarches et des techniques compositionnelles aptes à représenter musicalement ce qui est inimaginable? Ce qui nous renvoie à la tension entre, d'un côté, la laideur et le caractère abject du crime et de la barbarie, et d'autre côté, les exigences de la forme et du canon de beauté propres à l'expression artistique. Finalement, l'artiste engagé doit s'interroger sur l'efficacité de sa démarche par rapport au message. Ainsi, l'art engagé est aussi une question de stratégie. Mais ces stratégies, est-ce qu'elles ont des chances à aboutir? L'artiste ne se retrouvera-t-il pas devant des apories, voire des échecs? J'aimerais vous présenter 4 figures qui montrent chacun une démarche différente. Le premier cas de figure, Bertolt Brecht et la propagande politique. Au début des années 1930, Bertolt Brecht crée une série d'œuvres dramatiques pour agir directement sur les opinions afin de mettre en garde contre le fascisme rampant. L'écrivain et dramaturge s'engage artistiquement en tant que communiste et antifasciste. Son engagement pendant le national-socialisme et la guerre est ouvertement politique. Les stratégies de son travail se rapprochent de l'agitprop, donc agitation, propagande. Avec des musiciens de talent qui soutiennent également la lutte contre le totalitarisme, Brecht écrit des chansons, ballades ou petites cantates aux effectifs réduits que l'on pouvait jouer dans des petites salles devant des publics les plus variés. Le langage est simple, parfois très argotique, la musique est proche de la variété, du cabaret ou de la chanson populaire. Dans la chanson de Hitler et le peintre Barbouilleur, Das Lied vom Anstreicher Hitler, 31-32, il se moque d'un peintre qui repeint toutes les façades, tous les murs, toute la ville et toute l'Allemagne. Juste une couche de peinture qui recouvre toutes les fissures et tous les trous. Mais à la prochaine pluie, je cite, « toute la maison de merde réapparaîtra ». Le peintre Barbouilleur est évidemment Hitler, qui n'a rien appris que la peinture. Hein, on se souvient que celui était artiste-peintre avant sa carrière politique. Et la fin de la chanson conclut « Ganz Deutschland hatte angeschmiert », ce qui est un jeu de mots qui veut dire à la fois « il a barbouillé toute l'Allemagne », mais aussi « toute l'Allemagne s'est faite pigeonner par lui ». La célèbre chanson brechtienne est « Qu'est-ce qu'elle a reçu, la femme du soldat ?» écrit en 1942, transforme les campagnes militaires de la machinerie hitlérienne à travers l'Europe en une joyeuse promenade où, après chaque victoire, le soldat allemand envoie un cadeau à son épouse en Allemagne. Des chaussures à talons hauts de Prague, une chemise bigarrée de Varsovie, des fines dentelles de Bruxelles, un costume en soie de Paris, jusqu'au val de veuve qu'elle reçoit de la Russie après la défaite de Stalingrad. Dans les deux cas, la stratégie employée par Brecht est directe, claire, sans embarrage. Mais est-ce qu'elle est aussi efficace? Un public d'ores et déjà acquis y souscrira sans hésiter. Pour l'adversaire idéologique, par contre, le fossé se creuse davantage. Brecht est contraint en 1933, après l'incendie du Reichstag, de prendre le chemin de l'exil. Il s'adresse désormais à l'étranger, à un public qui est d'emblée gagné à la cause antifasciste, et il n'atteignait plus le public allemand sur lequel il aurait voulu agir. Le deuxième cas, Benjamin Britten et la réconciliation. Le compositeur britannique Benjamin Britten écrit en 1961-62 une œuvre majeure qui fait partie jusqu'à nos jours de la culture mémorielle, le War Requiem, Requiem de guerre. Pendant les bombardements de la bataille de l'Angleterre en 1940, la ville de Coventry a été presque entièrement rasée par les raids de la Luftwaffe. Et de la cathédrale médiévale ne restaient que quelques pans de murs. En 1962, après la guerre, une nouvelle construction qui jouxte des ruines abandonnées a été consacrée. Britten fut chargé, par le comité d'organisation, de composer une œuvre musicale pour cette occasion. Pourtant, la biographie du compositeur ne le prédestinait pas, de toute évidence, à recevoir cette commande officielle. Britten, en tant que pacifiste convaincu, avait quitté le territoire britannique au début de la guerre, en 1939, pour revenir en 1942 en demandant le statut d'objecteur de conscience. Britten avait plusieurs raisons pour accepter cette commande officielle. En juin 1945, le compositeur fait une tournée de concert avec le violoniste Yehudi Menuhin et joue dans plusieurs camps de concentration libérés. Ce qu'il a pu voir sur ce site lui a profondément marqué et traumatisé. Il disait par rapport à sa visite au camp de Belsen, « It was in many ways a terrifying experience. » Ce « in many ways » donc à plusieurs égards, ne fait pas seulement allusion aux horreurs qu'il y a découvertes, mais également à l'ébranlement qu'il a subi en tant qu'artiste. Est-ce que son travail artistique suffirait face à l'ampleur de la barbarie? Est-ce que l'artiste n'a pas le devoir de s'engager davantage? Quelle forme devait prendre l'engagement artistique dans des circonstances comme la guerre totale? Et finalement, l'engagement artistique est-il vraiment l'action appropriée dans telle situation ou faut-il se tourner vers des engagements plus directs? Par le voir Requiem, Benjamin Britten essaye de donner une nouvelle forme à son engagement artistique. Le choix de la messe des morts montre d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un auto-encensement des alliés victorieux, mais que les victimes sont désormais au centre, les victimes de toutes les nations belligérantes. Pour faire passer son message pacifiste, Britten place dans le texte du Requiem latin des poèmes en anglais de Wilfred Owen. Owen est un des plus importants poètes soldats de la Grande Guerre. Profondément traumatisé par les horreurs des tranchées, Owen écrit une série de poèmes sarcastiques qui expriment l'absurdité de la guerre, qui n'est finalement rien que barbarie et boucherie. Il est tué au combat exactement une semaine avant l'armistice de 1918, ultime preuve de l'absurdité de la guerre qu'il a décrite. Britten choisit plusieurs extraits de poèmes d'Owen et en construit une sorte de narration. Le jeune soldat qui part d'abord joyeusement à la guerre, qui connaît par la suite les horreurs des bombardements et des pluies d'obus, qui assiste au sacrifice de toute une génération et qui trouvera la mort. À la fin du Requiem, le soldat mort rencontre celui qu'il a tué, lui aussi tombé. Dans l'au-delà, les deux ennemis pourront se réconcilier alors que le cœur entonne le répond « Liberame, libère-moi ». Britten choisit pour la première audition trois solistes représentant les trois nations belligérantes, un Britannique, le ténor, un Allemand, le baryton, et une Russe, la soprano. Cependant, la dernière, Galina Vishnevskaya, n'a pas été autorisée par les soviets de sortir du pays. Le message de réconciliation était déjà entravé par la guerre froide. Et le troisième cas, Katia Kameli, faire apparaître les fissures. Une toute autre stratégie a été choisie par l'artiste franco-algérienne Katia Kameli. Son installation photographique « Trou de mémoire » de 2018, deux photographies accrochées côté à côté au mur, montre le mémorial de la libération sur le boulevard Mohamed Kemisti surplombant la baie d'Alger. De la photo à droite sort un accordéon de carte postale qui montre le monument à l'époque coloniale. Le grand pavois, réalisé en 1928 par le célèbre sculpteur français Paul Landowski en mémoire des morts de la Grande Guerre. Il s'agit d'une œuvre officielle commanditée par la ville d'Alger afin de montrer l'union entre les peuples français et algériens. Après l'indépendance de l'Algérie, le FLN fait appel à l'artiste Mohamed Issiakem pour déboulonner le monument et le remplacer par une œuvre nouvelle. Or, Issiakem conserve la sculpture de Landowski et la recouvre par un sarcophage de ciment. Plus de trois décennies plus tard, des fissures sur le monument font réapparaître par endroits le monument caché. Nous sommes donc face à trois œuvres qui se superposent, trois œuvres en télescopage, la sculpture de Landowski, le sarcophage d'Issiakem et l'installation de Kameli. L'art engagé de Kameli n'a vocation ni de dénoncer les injustices du système colonial, ni de dévoiler les crimes qui ont été commis en son nom. L'acte artistique nous vise nous-mêmes. L'installation de Kameli pointe du doigt les fissures dans nos mémoires. La mémoire officielle et commanditée pourrait être cachée, occultée. Mais le coffrage montrera tôt ou tard des fissures. Kameli nous pose toute une série de questions. Le monument d'Issiakem est-il un acte protecteur en sauvegardant un chef-d'œuvre de la sculpture française? Est-il un geste d'espérance? Le béton cache l'œuvre des anciens colonisateurs, mais cette dernière n'est juste endormie et témoignerait ainsi d'une réconciliation possible. Est-il un symbole brutaliste de revanche sur l'histoire ? L'œuvre des anciens colonisateurs est désormais domptée par le béton des nouveaux maîtres. Et le quatrième et dernier cas, les Pussy Riot, l'engagement total. Notre dernier exemple est une performance artistique du groupe féministe russe Pussy Riot, d'environ 10 jeunes femmes militantes. Leur position politique s'étend de l'anarchisme jusqu'à la gauche libérale. Elles s'opposent notamment à Poutine et sa politique impérialiste, mais elles critiquent également les institutions russes, le système d'éducation, la centralisation forcée, la discrimination des homosexuels, le non-respect de la Constitution et des droits de l'homme, ainsi que l'omniprésence corruption qui gangrène la société russe. Leur combat contre le machisme et la domination masculine les oppose aussi à l'Église orthodoxe, à laquelle elles reprochent de se laisser corrompre par le pouvoir en place. Le mode d'action du groupe consiste en des performances publiques et souvent illégales sur des lieux qu'elles ont investis. Les femmes portent des vêtements de couleur criarde et se masquent par des cagoules pour ne pas offrir leur visage au regard masculin concupiscent. Le caractère illégal des actions est indispensable afin que ce spectacle devienne menaçant pour le pouvoir en place. Les vidéos réalisées lors de ces actions sont par la suite diffusées sur Internet. Les spectacles sont provocateurs, mais non démunis d'humour. Tout comme le nom du groupe, qu'on pourrait traduire en français par « émeute de filles », mais évidemment aussi par « émeute de chattes ». Rappelons-nous de leur performance la plus spectaculaire et la plus médiatisée, la protestation contre Poutine dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Le 21 février 2012, quatre femmes de Pussy Riot, vêtues de robes multicolores et cagoulées, investissent l'espace devant l'ambon pour y scander une prière punk. « Vierge Marie, Mère de Dieu, chasse Poutine ». La riposte du pouvoir a été immédiate. Trois des jeunes femmes ont été arrêtées, une quatrième pouvait s'échapper. La vidéo retravaillée se propagera rapidement sur Internet. Les femmes étaient accusées d'hooliganisme et condamnées à 2 ans de prison. Bénéficiant d'une amnistie, elles seront libérées quelques mois avant la fin des peines en décembre 2013, probablement pour redorer le blason de la Russie en vue des Jeux olympiques à Sotchi. Or, le bilan de cette performance est mitigé. En tant qu'acte artistique, la qualité est bien pauvre. Ni le texte et encore moins la musique pourraient revendiquer de quelconque valeur artistique. Et en ce qui concerne l'efficacité, là aussi, il faudrait nuancer. En Russie, la cible première des Pussy Riot, presque 70% de la population condamne ou critique cette provocation ayant lieu dans une cathédrale orthodoxe. En Occident, par contre, les Pussy Riot pouvaient bénéficier d'un large soutien, notamment de la part des artistes, comme Madonna, lors de son concert à Moscou en août 2012. Mais on se mobilise généralement plutôt contre les peines prononcées, jugées trop élevées et disproportionnées par rapport aux actions. Des voix critiques se faisaient quand même entendre aussi en Occident, comme par exemple Mireille Mathieu, qui parle sur une chaîne russe de blasphème, tout en demandant la clémence pour les artistes. L'engagement des Pussy Riot est ici total, dans la mesure que celles-ci mettent en gage leur propre sécurité, leur liberté, leur santé, leur existence et risquent éventuellement même leur vie, même si le résultat n'est loin d'être évident. Résumons donc ces quatre stratégies et leur efficacité. Les œuvres agitprop de Bertolt Brecht sont didactiques et claires, mais la stratégie est inappropriée pour faire évoluer l'opinion de l'adversaire politique. Les codes culturels, langage, style musical, forme de communication qu'utilisent Brecht et ses collaborateurs sont issus de leur propre camp idéologique. Les bulles idéologiques qui existent actuellement sur Internet nous montrent cette fermeture communicative où le dialogue avec l'extérieur est difficile, voire impossible. Benjamin Britten, dans son Requiem, ne cherche pas à entrer en débat. Il mise sur l'émotion. Le contraste entre l'intemporalité des textes liturgiques en latin de la messe des morts et l'acuité du sarcasme des poèmes d'Owen provoque une énorme commotion à qui il est difficile à se soustraire. Une autre stratégie plus récente est celle de Katia Camelli qui nous confronte à la mémoire, ou plutôt aux mémoires au pluriel, aux mémoires officielles, supprimées, cachées, oubliées, fissurées et réapparaissant. La polysémie est au cœur de cette démarche, tout est ambigu, polymorphe et sujet à la réflexion. Or, cette démarche risque de se murer dans une tour d'ivoire où seuls les spécialistes et experts ont accès. Le groupe Pussy Riot radicalise finalement l'engagement. L'acte artistique devient un engagement total de la part des artistes qui agissent au risque de leur propre existence. Or, il y a finalement plus d'art, car l'œuvre artistique s'est volatilisée derrière l'acte politique des artistes.
Merci Beat Fulmi. Music Remembrance Radio.